Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 181e numéro de nos chemins d'histoire, le 22e de la 5e saison, et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Marie Houlmar. Bonjour à vous.
Bonjour Luc Dérault.
Marie Houlmar, vous êtes professeure d'histoire moderne à l'Université de Genève et vous publiez aux Presses universitaires de France un ouvrage intitulé « Justice d'Empire, la répression dans les colonies françaises au XVIIIe siècle ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur l'histoire des colonies françaises au siècle des Lumières, une histoire appréciée à travers la loupe de la justice et par le biais de politiques répressives mises en œuvre au Canada, dans les Antilles ou dans les territoires de l'océan Indien. Alors pour commencer, on peut revenir sur les débuts, les tout débuts de votre livre. Il y a une forme de paradoxe en fait. Vous évoquez l'esclave Bayonne, Bossal, donc né en Afrique, qui tente en 1777 de s'enfuir du cachot de la plantation Bellevue à Saint-Domingue. Et vous dites, faute de traces archivistiques suffisantes, il n'est pas possible de dire autre chose sur lui, sauf à tenter en guise d'hommage une restitution du monde dans lequel il a vécu. Commencer par un paradoxe, c'est toujours bien, Marie Houlmar.
Alors, je vous remercie d'insister sur ce point de départ qui était très important pour moi. Plus qu'un paradoxe, c'est presque aussi déjà un aveu d'échec dans la mesure où c'est reconnaître les silences qui vont rester de nos recherches et l'incapacité à restituer la voix de tous les individus subalternes, esclavisés, tels Bayonne, qu'on ne croise dans les archives que au gré d'un moment particulier, d'un moment de tension très forte, en l'occurrence tenter de survivre par la fuite à la veille d'un châtiment qui peut donner la mort. Et du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de reconnaître la difficulté à vouloir restituer un monde dans lequel on a une vision extrêmement parcellaire, extrêmement inégale, extrêmement ténue, en forme de mosaïque, peut-être, de ces individus. Et plus que Bayonne, ce sont ceux qui, à côté de lui, ont réussi, par une autre manière que la fuite, à se faire entendre des autorités, à s'exprimer devant des juges, à apporter leur parole, qui a été inscrite dans des archives. Et ce livre, si je l'ouvre dans les premières lignes sur Bayonne, en réalité, c'est surtout de tous ceux qui, à rebours de son cas, ont pu parler, ont pu s'exprimer, dont il s'agit et dont je voudrais partager avec vous quelques moments.
Alors c'est ça, on a l'impression que la recherche des voix, VOX, enfin des voix du passé compte, des voix masculines, moins facilement féminines finalement hein, dans votre livre. C'est surtout des hommes qu'on entend.
C'est effectivement un monde très masculin que celui du crime et encore plus de la répression, puisque tous les magistrats sont des hommes avant tout, et que leurs cibles répressives sont essentiellement masculines. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes dans cette affaire, on les croise comme témoins, comme victimes souvent aussi de gestes violents, mais en revanche, in fine, elles sont effectivement en deçà dans mon propos, dans la mesure où elles ne sont pas celles que la justice royale entend le plus souvent réprimer.
Alors, ce livre donc concerne ceux qui, vivant dans les colonies françaises du XVIIIe siècle et entrant en contact avec l'institution judiciaire, dites-vous, dès le début de l'ouvrage, tous ceux qui font une expérience du droit qui laisse des traces archivistiques conséquentes. Alors, dans cette phrase, il y a des choses importantes. Les archives, bien sûr, on y reviendra. Et la notion d'expérience du droit, ça c'est intéressant aussi, c'est important pour vous cette idée d'expérience.
Qu'est-ce que ça signifie se confronter concrètement à la justice? Qu'est-ce que c'est que d'entrer en contact contraint le plus souvent, d'abord comme accusé, arrêté, emprisonné? C'est ça que j'ai voulu prendre comme point de départ en centrant mon propos. Donc sur cette expérience au sens d'E.P. Thompson, celle du quotidien, celle des individus les plus modestes qui se trouvent confrontés à l'institution et qui n'en connaissent non pas une expérience savantes formées aux universités, qui seraient celles des juristes, mais celles des on-dits, des partages d'informations tout à fait empiriques.
Évidemment, le cadre qui est le vôtre, hein, c'est celui, il faut qu'on dessine un petit peu l'espace géographique, c'est celui du premier empire colonial français. Alors, quand on dit les choses, il y a toute une construction comme ça, historiographique derrière. Voilà, c'est un empire colonial qui remonte au XVIIe siècle. Quand on le prend à son apogée, c'est-à-dire plutôt au milieu du siècle suivant, au milieu du siècle des Lumières, donc avant le traité de, assez catastrophique pour la France, hein, de 1763 qui met fin à la guerre de 7 ans, c'est quand même une mosaïque de territoires, le Canada, la Louisiane, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Domingue, des comptoirs sur la côte ouest d'Afrique, les îles de France et de Bourbon, Maurice, la Réunion, des comptoirs en Inde. Un ensemble assez composite que vous avez voulu, ça c'est très important, embrasser dans sa totalité.
Alors c'est un geste à la fois très ambitieux et encore une fois très modeste, dans la mesure où les informations sont parcellaires. Il ne s'agit pas d'une grande histoire englobante, impériale de cet empire, mais plutôt une histoire en pointillés, de traces ténues, qui réunit des individus très diverses, puisqu'il s'agit de populations à la fois libres et esclaves, chrétiennes, musulmanes pour quelques-uns dans les établissements français de l'Inde. Donc une très très grande diversité, et puis une diversité surtout, et c'est important je crois d'insister dessus, de sociétés qui ont été bien étudiées de manière séparée par beaucoup d'historiens et d'historiennes, mais dont il reste encore à les mettre en relation les unes avec les autres à travers les cadres étatiques et les institutions qui les réunissent dans un ensemble qu'on appelle un empire.
Alors si on essaye juste pour donner une indication peut-être chiffrée, est-ce qu'on peut établir la population globale de cet ensemble-là? On a quelques idées des masses démographiques?
Alors les chiffres qu'on a, peut-être les plus fiables, sont ceux qui sont après la guerre de 7 ans et la perte du Canada. On estime qu'il y a environ 700 000 habitants dans l'Empire français en 1789, dont 86% seraient des esclaves. Essentiellement, donc à ce moment-là, un empire resserré sur les Antilles. On peut donner l'exemple de Saint-Domingue, 500 000 habitants, dont 430 000 sont des esclaves, un très très fort déséquilibre démographique, des libres de couleur, toujours à Saint-Domingue environ 25 000 pour 30 000 blancs libres. Après, si on va du côté de Gorée, c'est quelques centaines de personnes. Pondichéry, pour y revenir, c'est une population qui fluctue beaucoup, de 3000 habitants au début du XVIIIe siècle à 50 000 à certaines dates, et puis une politique d'abandon de la ville très régulière qui fait qu'on n'a pas de données fiables. Donc en gros, 700 000 habitants en 1789 pour peut-être 400, 500 000 quelques décennies plus tôt.
Alors évidemment, ce qui vous intéresse, c'est la justice et son maillage qui se met en place à partir des années 1660. Alors il y a d'ailleurs plusieurs cartes hein, dans votre livre qui permettent vraiment de bien comprendre les choses. Dans cette organisation judiciaire, ce qui compte en particulier, des juridictions subalternes, ce sont les conseils souverains puis supérieurs. Ces institutions se mettent en place sous le règne de Louis XIV, à partir des années 1660, c'est ça, Marie Oulmar?
C'est tout à fait ça. Les premières juridictions royales datent des années 1660, d'abord à Québec, en Martinique, en Guadeloupe, et sont établies tout au long du XVIIIe siècle dans ces différents espaces. C'est assez modeste comme tissu, puisqu'on compte environ 500 magistrats pour les Antilles qui ont pu être repérés. Au total, une population peut-être d'un millier de personnes, composée de juges, mais aussi de greffiers, de procureurs et de très peu d'avocats, très peu nombreux, puisque les autorités essayent d'empêcher le développement de cette profession, ce qui fait que là, il y a une vraie différence vis-à-vis de l'exercice quotidien de la justice tel qu'on le connaît en métropole à la même époque.
Alors, si on regarde ces conseils supérieurs, il y a un conseil supérieur par colonie, à l'exception de Saint-Domingue, où il y en a deux, hein, si j'ai bien suivi. Ce qui intéressera peut-être nos auditeurs, c'est, et ce qui permet un peu de se plonger un peu dans les arcanes de l'Ancien Régime, c'est la manière dont ces institutions sont articulées avec les gouverneurs, les intendants des colonies. Ces rapports sont complexes.
Oui, c'est une configuration très particulière dans la mesure où, contrairement à l'image qu'on a aujourd'hui de la justice qui serait une, avec un équilibre de trois pouvoirs bien séparés, en réalité, la justice d'Ancien Régime est particulièrement coloniale et placée sous l'autorité directe de ces deux autorités, l'une militaire, le gouverneur, l'autre civile, l'intendant, qui se partagent l'autorité coloniale. C'est-à-dire qu'ils sont placés directement sous leur autorité. Ces juges, et là je continue cette opposition avec la France qui est importante, ne sont pas des juges vénaux, ne sont pas propriétaires de leurs charges, et ils sont payés par le secrétariat d'État à la marine. Ce qui veut dire qu'ils rendent des comptes, qu'ils sont aussi beaucoup surveillés, beaucoup de rapports sur la manière dont ils se comportent sont rendus, et qu'ils peuvent aussi être destitués en cas d'opposition avec le gouverneur et l'intendant, ce qui est relativement fréquent.
Vous le dites d'emblée, ça c'est intéressant parce que vous partez de là quand même. Ce sont des juridictions, ces conseils supérieurs, il y a d'autres instances, les amirautés, c'est à partir de 1717, qui servent à soutenir, dites-vous, la colonisation et à seconder la mise en valeur par le travail forcé des espaces conquis. Vous dites encore « analyser par le prisme de l'emprise pénale la consolidation locale de l'autorité royale et la construction générale de l'autorité impériale ». La dimension répressive, elle est très présente dès le départ et dès le sous-titre de votre ouvrage.
Alors la répression est très présente comme un outil effectivement pour maintenir un état de violence organisée, orchestrée, qui fait pleinement partie de sociétés coloniales dans toute leur diversité. Je voudrais aussi préciser un point important qui est que la répression est très faible par rapport à l'activité civile de ces juridictions. Ces magistrats sont d'abord là pour régler les conflits des individus libres entre eux, que ce soit des conflits de voisinage, d'arpentage, de contrat, de mariage, de succession. Et c'est uniquement de manière très secondaire, en tout cas dans la masse d'archives, mais aussi dans le quotidien de leurs activités, que la répression doit être étudiée et considérée, même si, de fait, elle est extrêmement importante dans sa violence et aussi dans la tentative d'affirmer une autorité royale sur des individus qui sont, au fond, très loin des cadres institutionnels européens dont ils sont issus et qui s'arroge des droits sur d'autres hommes, sur d'autres femmes, qui sont des droits de vie et de mort dans le cadre de l'esclavage.
Alors évidemment, votre travail s'inscrit dans des perspectives historiographiques riches et variées. Et d'abord, bien sûr, l'histoire de la justice, de la magistrature en terrain colonial. Vous soulignez dans votre introduction les apports français, francophones, les apports anglophones. Vous soulignez notamment l'attention qui a été portée aux legalities, au legal pluralism. Les travaux, par exemple, de Lauren Benton semblent très importants pour vous. Vous les citez d'emblée. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez marié peut-être ces influences historiographiques différentes?
Alors c'est effectivement un point très important de ma réflexion, et la richesse des travaux de Lauren Benton joue ici dans son intérêt pour la géographie du droit. Comment le droit s'inscrit dans l'espace, s'inscrit dans des territoires qui sont des territoires situés souvent dans plusieurs ensembles politiques. Donc ça c'est vraiment un point d'ancrage extrêmement fort qui rejoint aussi des questionnements plus français, je dirais, sur des enjeux de déploiement de l'État moderne, assez classique, et de cet enjeu du code noir comme exorbitant du droit. Qu'est-ce qu'on fait avec un droit qui invente l'injustice et qui la met en forme de manière aussi criante? Alors les historiens français se sont intéressés depuis une vingtaine d'années plutôt au cadre de la magistrature, je pense aux travaux de Bernard Durand, de Florence Renucci, qui ont essayé de voir qui rend justice ou qui fait marcher l'institution judiciaire, pour le dire autrement, dans les espaces coloniaux français. Et cette tradition, elle rencontre une tradition, je dirais, plus d'histoire sociale, plutôt anglophone et nord-américaine qu'anglaise, plus, je dirais, atlantique en réalité, d'intérêt sur les liens entre société et droit. Comment l'histoire sociale se nourrit de textes juridiques, de pratiques juridiques pour étudier les sociétés. Et là, on pourrait évoquer beaucoup de travaux, mais j'aimerais mentionner ceux de Cécile Vidal, que je cite aussi beaucoup dans le livre, et qui a vraiment fait le pont entre ces différents ensembles historiographiques. Une troisième influence serait plutôt celle de ces historiens de la construction des États-Unis d'Amérique sur un terrain complexe entre sociétés autochtones, qu'on appelle Première Nation au Canada, entre sociétés issues d'Europe et de communautés protestantes, et puis l'apport de l'esclavage. Et je pense surtout à la très belle formule de Christopher Tomlins qui parle du droit comme une technologie du pouvoir et qui l'ancre dans l'ensemble des moyens de domination, plus que de conquête en réalité, qui sont souterrains dans le creuset nord-américain.
Tout ça vous amène finalement à réfléchir aussi aux modalités de l'expansion ultramarine française. Et vous rappelez, c'est intéressant pour l'historiographie, que l'analyse en termes impériaux de cette expansion est finalement, en tout cas du côté français, des choses récentes, Marie Houlmar.
C'est vrai que l'histoire impériale est plus récente, et il faut bien faire la différence entre l'histoire coloniale, comme des rapports de domination entre une population colonisatrice et qui impose sa domination à une population colonisée, et l'histoire impériale qui a été beaucoup renouvelée avec le grand livre de Jane Burbank et Frederick Cooper, Empires in World History, dont le sous-titre s'intitule « Pouvoir et les politiques de la différence », c'est-à-dire penser l'intégration de plusieurs types de populations dans un même ensemble politique, de manière différenciée, hiérarchisée. Et c'est avec un léger retard que ces questions impériales ont pénétré l'histoire de la colonisation française.
Et là maintenant, c'est très en vogue tout ça.
C'est très en vogue et c'est un moyen vraiment extrêmement riche à la fois d'étudier l'expansion ultramarine et puis de penser aussi l'effet sur les cadres nationaux et étatiques de la colonisation en France dans les métropoles. Qu'est-ce que ça fait au pouvoir? Qu'est-ce que ça fait aux sociétés métropolitaines? C'est aussi des questions sous-jacentes qui animent beaucoup d'entre nous dans nos recherches.
Alors, pour proposer cette histoire-là, évidemment, il faut des archives, des sources, et vous rappelez immédiatement que ces sources sont nombreuses et dispersées. Le corpus central de l'enquête pour vous, ce sont ces dossiers de procédure copiés et envoyés au secrétariat d'État de la Marine, aujourd'hui conservés aux Archives nationales d'outre-mer. Vous avez beaucoup travaillé à Aix-en-Provence, aux Archives nationales d'outre-mer.
C'est le cœur de mon corpus, c'est vrai, que j'ai essayé de confronter aussi aux archives bien conservées de certaines juridictions. Je pense à celles des archives québécoises, qui sont très riches et qui sont surtout extrêmement bien inventoriées, alors que d'autres sont moins faciles à atteindre, et je pense par exemple au fonds extrêmement riche, mais difficile à consulter, de l'île Maurice. Alors, pour revenir à Aix-en-Provence, qui est extrêmement saisissant, c'est que on a dans les fonds qui ont été longtemps pensés comme des fonds de dossiers du personnel de la marine, en réalité des procès qui sont envoyés en France depuis l'ensemble de ces juridictions pour réfléchir aux décisions qui ont été prises et pour les justifier ou pour accompagner aussi des prisonniers arrivés en France. Ces archives, elles sont inégales, elles sont sélectives, mais elles ont le mérite de mettre en évidence des cas particulier. Il s'agit pas de faire une histoire statistique et systématique, mais plutôt de mettre en avant des cas qui ont attiré l'attention des autorités centrales, métropolitaines, comme étranges, exceptionnels ou emblématiques, ou qui ont en tout cas nourri une réflexion et des échanges souvent transatlantiques autour de la meilleure manière de rendre justice et des cibles de la répression.
À travers les sources que vous utilisez, on voit bien l'aspect un petit peu scalaire de votre travail. Il y a vraiment toujours la volonté d'articuler des phénomènes généraux et des trajectoires individuelles, avec évidemment l'intérêt pour les acteurs, la question de, je ne sais pas si vous le dites comme ça, mais la question de l'agentivité des uns et des autres est aussi posée. Mais cette dimension, voilà, d'échelle, enfin, scalaire me semble assez importante dans votre livre.
Je vous remercie de le pointer parce que c'est vraiment une préoccupation très importante pour moi qui s'accompagne aussi d'une réflexion sur les circulations. On étudie traditionnellement la justice dans le cadre d'une juridiction, l'activité d'un tribunal et toutes les questions que ça pose en termes de capacité à saisir une criminalité ou voire à la construire. Or, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en série ces informations parcellaires sur beaucoup de juridictions pour voir émerger d'autres logiques qu'on ne verrait pas si on étudiait une seule société. Donc pensez la réalisation d'un régime punitif qui joue à deux niveaux, un niveau local, chaque société a ses propres préoccupations, elles ne sont pas les mêmes à Pondichéry, à Port-au-Prince ou à Montréal, mais aussi pensez la répression à l'échelle de ce filtrage qui se fait par la distance de ce qui inquiète les autorités métropolitaines dans la construction d'une expansion ultramarine dans le cadre de la concurrence entre grands empires européens.
Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Marie Houlmar, professeure d'histoire moderne à l'Université de Genève. Marie Houlmar qui publie aux Presses universitaires de France un ouvrage intitulé « Justice d'Empire, la répression dans les colonies françaises au XVIIIe siècle ». Que la répression vise tout particulièrement les individus dépendants dont la mobilité n'est pas libre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit dans la procédure, dans les condamnations prononcées, dans la manière dont elles sont mises en spectacle, dans ce que vous appelez le spectacle, avec d'autres certainement punitifs. Et vous parlez un moment de racialisation judiciaire, Marie Houlmar.
Cette racialisation, elle est très forte. On la lit souvent au prisme de textes terriblement iconiques, hein, ce qu'on appelle le Code noir, qui est en fait un ensemble de dispositions pour la police des esclaves. Et je reprends les mots de la première ordonnance de 1685. Et cette racialisation, elle joue pas uniquement sur le fait qu'on punit plus fortement et de loin les esclaves, mais aussi sur les modalités concrètes d'exercice de ce régime punitif, qui se heurte très vite, en fait, à des paradoxes, là encore, et à des difficultés de mise en œuvre, puisque le langage du droit tel que les juges l'importent depuis l'Europe est un langage fondé sur l'exemple, sur le châtiment terrifiant, impressionner les autres pour éviter la répétition. Or, ça ne fonctionne pas dans un cadre où la violence dirigée contre les personnes esclavisées est quotidienne et fait partie de leur mode de vie habituel, fait partie du régime de travail forcé. C'est donc des pratiques, une grammaire qui doit être transposée et qui s'accompagne d'un régime qui est vraiment un régime racialisé, ce qui se voit y compris dans l'espace carcéral tel qu'il est mis en place, avec des quartiers pour hommes, pour femmes, mais surtout des quartiers pour libres et pour esclaves, ou pour blancs, libres de couleur et pour esclaves, suivant les cas.
Il y a de multiples exemples hein, qui traitent de cette racialisation judiciaire. À un moment, c'est aux pages 105 et suivantes de votre livre, vous convoquez l'exemple de la justice pénale rendue à Bourbon, hein, sur l'île de Bourbon. On cible surtout, dites-vous, les esclaves fugitifs. Par contraste, et ça c'est vraiment un diptyque qui fonctionne très fortement dans votre livre, par contraste avec la faible criminalisation des libres blancs. Là c'est vraiment une dichotomie très, très puissante.
C'est une justice terriblement injuste dont on parle, qui ne vise pas à faire respecter des principes universaux qui sont alors mis à l'œuvre dans des textes théoriques en Europe, mais qui effectivement impose des supplices à tous ceux qui cherchent à braver l'autorité des maîtres et l'autorité de l'État royal en s'enfuyant, en refusant le travail forcé. C'est donc la mobilité fugitive dont il est question avant tout, les tentatives pour rattraper les esclaves et les immobiliser par des mutilations de mollets hein, qui empêchent donc la course, par des chaînes qu'on fait porter, et puis à la deuxième récidive, par la mort. Donc ça, c'est le cadre général qui après se décline différemment. Mais par contraste, on s'aperçoit que ce qui fait l'objet en Europe de procédures assez dures contre des pratiques criminelles, ici dans ces espaces-là ne sont pas punis du tout par la justice, puisque l'enjeu principal de ces juridictions, c'est d'impressionner les esclaves, c'est de les terroriser, et ça n'est pas de faire régner un ordre moral qui dupliquerait les valeurs morales qu'on pourrait trouver devant des tribunaux en France.
Si on regarde justement ces pratiques, ces formes d'enchaînement, d'incarcération, on peut poser aussi la question peut-être de l'évolution de tout ça, de ce régime punitif tout au long du XVIIIe siècle. Est-ce que ça génère des formes aussi de débat, de contestation? Enfin voilà, on est quand même au siècle des Lumières.
Alors on voit des pratiques effectivement se transformer, des innovations dans un régime punitif très mouvant en réalité, contrairement aux textes tels qu'on peut les lire, les textes de loi. J'en prendrai un exemple qui pour moi est le plus saisissant. À partir des années 1740, les autorités de la Martinique et de Saint-Domingue s'interrogent sur l'intérêt de condamner à mort des esclaves qui pourraient, au contraire, servir d'une force de travail gratuite à destination du pouvoir royal. Et on propose donc d'inventer, de manière empirique et relativement discrète au départ, des conversions de peine en supprimant la peine de mort. Or, ce qui est intéressant, c'est la chronologie, puisque c'est en réalité avant le traité iconique de l'abbé Beccaria des délits et des peines que la mise en doute de la peine de mort est mise en pratique par des conversions de peine qui s'accompagnent de l'invention de chaînes d'esclaves, comme on les appelle, de peines de travaux forcés et de bagnes différenciées pour les esclaves. L'un des points importants que je voudrais souligner, c'est que les autorités royales cherchent à asseoir leur autorité tout autant sur les propriétaires d'esclaves que sur les esclaves eux-mêmes. Et pour ce faire, ils les invitent à déléguer leur pouvoir de punition, leur pouvoir d'exercer la violence, au juge le plus proche. En échange, ils remboursent les esclaves punis. Donc toute cette circulation d'argent, de richesses et de forces de travail crée un vrai débat qui s'accompagne d'une terreur permanente, il ne faut pas l'oublier, aussi des libres face aux esclaves dont ils craignent les soulèvements et puis les risques d'empoisonnement, une coexistence qui est toujours difficile.
Peut-être une question qu'on peut se poser quand même, c'est est-ce que tout ce qui se passe, ça suscite, je veux dire, du point de vue de la métropole, un regard un peu, surpris, étonné, enfin voilà, est-ce que c'est dénoncé? Est-ce que les philosophes s'emparent de cette question? Ou est-ce qu'on est quand même dans une espèce de bulle un petit peu à part, où le débat philosophique finalement n'entre pas en ligne de compte?
Question est extrêmement importante et en fait qui interroge au fond tous ceux qui travaillent aussi sur les Lumières. Quelle circulation entre les idées philosophiques et entre les pratiques, en l'occurrence celles que j'étudie punitives, mais plus générales de l'exercice de l'esclavage? Je pense que la réponse ne peut pas être univoque puisqu'on sait à quel point la métropole est intéressée au succès en fait d'une entreprise qui est aussi la clé de l'enrichissement d'une grande partie des élites françaises. Donc il n'y a pas de discussion publique avant les années 1788-1789 dans des cas très précis de propriétaires d'esclaves qui sont condamnés pour les avoir torturés et qui sont rapatriés en France. On voit Brissot, et je le cite à la fin du livre, se plaindre à l'Assemblée nationale qu'un colon exilé qui s'appelle Méni, qui a été condamné à ne plus avoir le droit de posséder d'esclaves et à être déchu de ses biens, Brissot se plaint qu'il se promène librement à Paris alors que c'est un individu qui a été reconnu par la justice royale comme auteur de tortures terribles. Mais tout ça arrive très tardivement. Je pense en revanche que l'écart entre les sources judiciaires, les sources administratives et le débat public n'empêche pas qu'il y a vraiment des discussions discrètes mais relativement fréquentes sur ce qu'on appelle l'humanisation de l'esclavage et l'intérêt en fait de mieux traiter les esclaves, d'en prendre mieux soin pour éviter les tensions. Donc je crois que ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est un des chaînons manquants en fait entre la communauté des philosophes, pour le dire vite, et un vrai débat d'idées et les pratiques esclavagistes les plus dures.
Ce qui est passionnant, évidemment, dans votre livre, c'est que vous évoquez, vous traitez aussi de la sous-criminalisation de la violence des Blancs entre eux. Vous dites qu'il y a une forme de tolérance vis-à-vis de la violence commise par les Blancs, tolérance qui informe, ça je pense que c'est très important, tout le fonctionnement de la justice coloniale, vous dites ça à la page 140. Expliquez-nous en quoi ou comment ça se fait tout ça.
Vous voyez tout d'abord qu'en réalité, ce livre que j'ai voulu tirer ample, plus on avance dans la discussion, plus on voit qu'en fait, il se resserre sur une Caraïbe esclavagiste hein, qui est de plus en plus le cœur de l'Empire, dans lequel les magistrats sont eux-mêmes des planteurs, c'est le premier point. Ils sont donc personnellement intéressés au maintien de cet ordre violent dont ils bénéficient à titre individuel et collectif. Ça veut dire qu'il y a une forme de tolérance de par la proximité des acteurs entre eux, des élites coloniales, et puis aussi toute une stratégie collective tacite qu'on voit se dessiner de dossier en dossier d'évitement judiciaire. C'est-à-dire qu'il arrive, par exemple, qu'un intendant fasse sortir des prisons un jeune homme ayant commis des malversations pour le renvoyer discrètement en France à sa famille, afin d'éviter quoi ? Eh bien, afin d'éviter le scandale qui est pas juste un scandale moral, mais qui risque de miner l'autorité des élites libres sur l'ensemble de la société esclavagiste. Alors, pourquoi informe tout le fonctionnement de la justice coloniale ? Parce qu'il n'est pas pensable de condamner à mort, de violenter publiquement un individu dont le rôle social est fondé sur la peur qu'il exerce devant la majorité, la très grande majorité de la population.
Alors, évidemment, c'est passionnant de faire une espèce de typologie sur les manières dont les Blancs échappent finalement à la justice, à la sanction judiciaire. Les exécutions sont rares, les condamnés, des condamnés échappent à la justice, sollicitent le pardon royal et l'obtiennent. Parfois, vous avez étudié beaucoup de dossiers de clémence. Voilà. Et puis, il y a des mesures d'exil et d'évitement punitif par voie administrative pour les colons délinquants ou criminels. Donc voilà, il y a tout un ensemble de voies pour échapper à la justice, et là encore on est dans la circulation géographique, parce qu'on est parfois exfiltré, enfin, des colonies d'une certaine manière.
Tout à fait. Et on voit une forme de solidarité des acteurs à tous les niveaux, à la fois administratifs, officiels et privés, pour permettre ces circulations d'évitement, des fuites qui sont facilitées d'ailleurs par l'importance des communications maritimes entre les îles de la Caraïbe ou par des communications terrestres. Il y a donc un réseau en général de soutien mutuel qui permet ça. Malgré tout, ce qu'on voit aussi se dessiner, c'est parmi les Blancs, deux catégories d'individus qui restent l'objet d'une surveillance ou d'une crainte des autorités. On peut parler, en suivant Anne-Laura Stoller, que j'aimerais citer, des anxiétés coloniales hein, qui se dessinent. Deux catégories, ceux qu'on appelle les mauvais sujets, c'est-à-dire des individus malveillants et qui cherchent à s'enrichir plus vite que les autres. Et puis surtout, des hommes dangereux. La catégorie hommes dangereux, c'est la catégorie de tous les individus subversifs pour l'ordre colonial. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des individus qui peuvent écrire des chansons satiriques contre les autorités judiciaires, d'individus qui peuvent aider la fuite d'un esclave pour s'échapper, des individus qui sont critiques d'une manière ou d'une autre, de manière individuelle ou collective, vis-à-vis de l'ordre colonial. Et ces deux catégories, mauvais sujet, homme dangereux, c'est des termes qui s'adressent à un certain nombre de comportements hein, que j'ai essayé de définir, et bien ce sont eux qui font l'objet d'une surveillance et dont on considère qu'ils n'ont pas leur place dans les colonies. On voit donc se dessiner un principe de solidarité entre colonies qui amène à repousser en métropole tous ceux qui sont considérés comme un danger potentiel pour l'expansion coloniale, ce qui indique en retour une société fragile.
Vous l'avez indiqué à l'instant, hein, ce qui est passionnant, c'est la multiplicité des acteurs. Et il y a un des chapitres qui évoque le traitement de la folie, hein, et vous êtes arrêté un peu sur un cas particulier pour examiner justement la chaîne d'acteurs qui intervient dans le traitement de la folie par l'envoi dans les prison métropolitaine à partir du cas de Saint-Domingue. C'était intéressant pour vous, justement, pour suivre la trace, hein, ces multiples acteurs et dans un espace géographique qui se dilate, hein, comme à chaque fois dans votre livre.
Alors ce cas, il est extrêmement saisissant parce que c'est un planteur, Tavo de Chambrun, qui est d'abord identifié comme fou par ses propres esclaves. Et le point de départ de cette affaire-là, c'est que son comportement est tellement violent mais aussi contre-productif que ses esclaves s'enfuient et vont demander de l'aide. À partir de là, toute la communauté se ligue pour le faire reconnaître comme incapable de vivre de manière autonome et de gérer ses biens. Donc les esclaves, les voisins, sa famille qui s'assemble pour signer une autorisation en fait de le confier au magistrat qui le fait interdire, envoyer en Europe. Puis c'est le capitaine de navire qui doit le transporter, les autorités portuaires en France et les autorités ministérielles de la marine qui finissent par le faire enfermer. Alors c'est un cas, mais en réalité c'est peut-être 100, 200 personnes que j'ai identifiées tombant sous ce coup d'une interdiction et d'un internement préventif en France. Le terme de folie ici renvoie non pas à une permanence de ce qui serait une forme d'anormalité, mais plutôt à une inadéquation au cadre d'une société, encore une fois, dont on a pu dire qu'elle était en guerre avec elle-même tellement la violence y était forte. Je voudrais dire aussi à quel point c'était difficile dans la conception du livre de choisir des cas à faire monter en avant. Parce qu'il y a tellement d'histoires, tellement un tissu de situations exceptionnelles, tellement saisissantes, tellement diverses, qui traversent les lignes raciales parfois, qui vont à contre-courant de ce qu'on imagine, que j'ai choisi celui-ci, mais j'aurais aimé pouvoir en choisir peut-être encore une centaine d'autres.
On sera passionné aussi par vos dernières pages sur les effets politiques et administratifs des circulations judiciaires, le recours à l'autorité du secrétaire d'État de la Marine, le contrôle ministériel, ça c'est passionnant, et ses effets, et l'affirmation progressive d'une unité impériale par la justice et l'administration, à la fois dans une forme de polycentrisme et en même temps d'unité qui se construit. Enfin voilà, il y a les deux dynamiques qui coexistent, enfin ça c'est vraiment passionnant.
Un des lieux centraux dans ce livre, au fond, peut-être de manière un peu implicite, c'est le bureau des colonies. Le bureau des colonies, c'est un petit service du secrétariat d'État à la marine, où tous ces individus, et puis bien d'autres, enfin tous ces individus qui sont renvoyés en métropole, et puis bien d'autres, viennent présenter des requêtes, des demandes, des suppliques, viennent défendre leur cas auprès des autorités. On voit des effets de circulation directe et de grande proximité avec les autorités impériales dans cette histoire-là. J'en citerai, pour exemple, le cas d'un marquis qui perd un procès devant le Cap français et puis qui dit, bah, puisque c'est ça, je vais aller parler au ministre et lui me donnera raison. Donc il y a aussi une unité par ces circulations, mais aussi des tensions entre différents régimes de conception des priorités impériales suivant si on est à Versailles ou devant les juridictions coloniales. Cette unité, elle est peut-être moins dans le contrôle que dans le sentiment des justiciables qui a un lieu de recours ultime. Et ce lieu de recours ultime, il est au plus près du roi, il est dans les bureaux de Versailles, dans la machine qu'on dénonce alors. Et c'est aussi un lieu où se construit l'arbitraire administratif que dénonce un Malesherbes, par exemple.
On voit bien que dans votre ouvrage, il y a énormément de personnages, d'études de cas, etc. Il y a un foisonnement. J'imagine que l'impressionnisme, c'est bien, mais c'est parfois aussi un risque. Comment vous avez réussi à jouer à la fois sur l'identification à travers toute cette galaxie de cas, de personnes, d'itinéraires, de trajectoires, et la nécessité aussi de travailler des problématiques plus générales. C'est pas forcément très simple.
Alors déjà, je suis pas sûre d'avoir réussi à faire vivre tout ça en échappant à un risque réel d'impressionnisme, c'est vrai. Et je crois que le terme d'agentivité que vous évoquiez tout à l'heure est crucial ici. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai bien conscience, et j'espère l'avoir fait passer aux lecteurs et aux lectrices, que n'émergent de cette mosaïque, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, que des individus qui ont réussi dans une certaine mesure à échapper à une situation de soumission totale ou à jouer avec la justice comme un guichet en fait auquel on peut s'adresser, auquel on peut faire recours. Des individus qui sont souvent minoritaires. Donc c'est vraiment un travail par cas, j'insiste bien là-dessus, et on est au fond proche d'une collection de micro-histoires plutôt que d'une histoire totale de l'institution. Donc ça, je crois que c'est très important. L'autre point, c'est que on a des dossiers qui sont très nombreux. Donc j'en ai lu beaucoup, beaucoup. Et puis, en cherchant à travers le langage administratif des situations qui se répétaient, qui faisaient l'objet de commentaires. Et les sources dont j'ai pu disposer pour écrire ce livre, c'est aussi beaucoup les notes de service des commis ministériels qui commentent des affaires avec leur point de vue. Et donc, on a plusieurs strates, en fait, de discours qui permettent de dégager différentes rationalités, différentes conceptions d'une situation. Ce qui me permet, je l'espère, de nuancer le propos et de servir de cas, pas pour exemplifier des choses générales, mais simplement pour donner à voir la diversité des possibles dans une situation contrainte.
Ce livre paraît, c'est le fruit de plusieurs années de travail. Alors c'est toujours difficile peut-être, mais peut-être que vous en avez aussi le besoin, la nécessité, je ne sais pas, de se projeter, mais quels sont vos chemins d'historienne pour les semaines, les mois, les années à venir, Marie Oulmar?
Alors, beaucoup d'idées. Tout d'abord, un projet qui va être financé par le Fonds National Suisse et qui va s'engager cet été avec une équipe qui inclut une post-doctorante, Marion Philippe et une doctorante, autour des questions des masculinités esclavagistes. On parlait d'un des points un peu aveugles du livre, qui est la question du genre. Et ce que je voudrais creuser comme sillon, c'est l'enjeu de savoir ce que c'est que, par exemple, être un blanc subalterne dans une société racialisée. On voit les soldats être appelés par des observateurs des nègres blancs au milieu du XVIIIe siècle. On voit des économes être méprisés. Donc, c'est toute cette société pour venir complexifier le panorama. Et puis, je voudrais aussi, deuxième projet, revenir sur ce cas qui ouvrait notre discussion, celui de Bayonne et d'Antoine, et écrire vraiment une micro-histoire de ces individus et de leur entourage, grâce cette fois à des archives privées, très riches, dans lesquelles on voit comment un procès est l'occasion de questionner l'agentivité de deux esclaves qui choisissent des chemins différents pour sortir de l'esclavage.
Belle perspective. L'histoire continue. Merci beaucoup, Marie Oulmar.
Merci beaucoup, Théo.
Et c'est ainsi que se termine le 181e numéro de nos chemins d'histoire, le 22e de la 5e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Marie Oulmar, professeure d'histoire moderne à l'Université de Genève. Marie Oulmar qui fait paraître aux Presses universitaires de France un ouvrage passionnant, vous l'aurez compris, un livre intitulé « Justice d'Empire, la répression dans les colonies françaises au XVIIIe siècle ». Toutes nos émissions sont disponibles sur les plateformes de podcast et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.